sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation. Mesdames, Messieurs, j'ai proposé comme titre spécifique, ou plutôt j'ai hésité pour intituler cet exposé, entre le déclin de la légitimité démocratique et le déclin de la légitimité politique. Et finalement, j'ai choisi in petto le déclin de la légitimité politique. J'espère que j'aurai rendu clair les raisons de mon hésitation et les raisons du choix final pour le déclin de la légitimité politique. Je n'ai pas choisi le titre le plus désespérant, j'ai choisi le titre qui m'a semblé le plus pertinent. Je ne surprendrai personne, je crois, si, pour entamer mon propos, je relève la diffusion d'un sentiment de malaise, de perplexité, de désarroi qui affecte la plupart des pays européens, aussi bien que les États-Unis. Des inquiétudes et des passions voisines troublent au même moment les deux rives de l'Atlantique, ce qui ne s'était pas produit, je crois, depuis longtemps. Qu'ont en commun les pays concernés ? Ils ont en commun, bien sûr, d'être des démocraties. Non seulement d'être aujourd'hui des démocraties, mais pour plusieurs d'entre eux, d'avoir été les premières démocraties, et donc les fondateurs et les modèles du régime politique moderne. C'est le cas en particulier, je ne vous apprends rien, à des titres ou sous des formes diverses de l'Angleterre, comme l'on disait avant, des États-Unis et de la France. La crise qui affecte les démocraties n'est pas aujourd'hui une crise de croissance, comme on le dit parfois encore, une crise du processus de démocratisation, comme tous les pays aujourd'hui démocratiques en ont connu à un moment ou l'autre de leur histoire. Pourquoi ? Parce que cette crise survient dans des démocraties depuis longtemps installées, dans leurs mœurs, dans leurs institutions, des démocraties, il y a peu encore, confiantes dans la solidité et l'excellence de leur régime politique. Il y a 30 ans, 1989, 1990, 1991, ce que j'aime appeler l'évaporation du communisme, ou si l'on veut l'exténuation du communisme, semblait avoir ouvert la perspective d'une longue, heureuse et pour ainsi dire irréversible maturité. Aujourd'hui, nous voyons s'élever à l'intérieur de nos pays des opinions, des passions, bref, des forces qui semblent mettre en cause les institutions et les principes sur lesquels nous pensions pouvoir nous appuyer avec confiance. Pour partir du bon pied, et ce sera ma première partie, il y en aura trois, bien entendu, je voudrais d'abord esquisser une description de notre vie commune et donc des opinions et des passions qui la dominent et qui la divisent. Comme beaucoup d'observateurs, à dire vrai, comme la plupart des observateurs, je relèverai d'abord une division sociale et morale de grande ampleur entre, d'une part, comment dire, une classe instruite qui désire participer au mouvement du monde, qui se juge capable de le faire avec avantage, et une classe où, en tout cas, des couches sociales, peu ou mal formées, pour lesquelles ce mouvement du monde recèle surtout des menaces. Les premiers regardent la vie sociale comme l'ensemble des occasions de faire valoir leurs talents, sans qu'ils éprouvent le besoin ni le désir très vif d'une appartenance politique forte. Ils sont peu attachés à leur nation, ou plutôt, ou plutôt, ils mettent une sorte de point d'honneur à souligner leur indépendance par rapport à elles, leur capacité à conduire leur vie en tout point du globe où leur compétence trouvera à s'exercer. Sentiment qui s'est cristallisé et qui est peut-être devenu irréversible au cours d'une éducation supérieure de plus en plus conduite en anglais. Bref, ces membres de la classe éduquée, de la classe dirigeante, de la classe instruite, vivent en n'importe quel lieu du monde où ils travaillent ou pourraient travailler. Quant au second, aux membres de ces couches moins instruites, moins formées, inquiètes du mouvement du monde, ils voudraient travailler le plus près possible du lieu où ils ont leurs habitudes de vie. Ils sont attachés à un milieu familier, à des mœurs, à une forme de vie commune. Aujourd'hui, et ce diagnostic ne prétend à aucune originalité, vous le voyez bien, aujourd'hui, ces deux ensembles sociaux et moraux ont perdu la capacité et le désir de communiquer, car ils n'ont rien à se dire. Depuis que le sentiment d'une chose commune à partager, depuis que ce sentiment s'est effacé des deux côtés. Il n'y a plus guère de conscience commune parmi nous que la conscience de classe. Je suis désolé de faire retentir ce mot qui va choquer des oreilles amies, mais après tout, François Guizot ou Alexis Tocqueville n'hésitaient pas à employer ce terme et nous ont appris à en faire un bon usage. En tout cas, le regain de la conscience de classe est un trait saillant de la situation présente. La classe dirigeante éprouve pour le peuple un mépris tranquille, aussi bien qu'implacable, tandis que celui-ci, le peuple donc, est enfermé dans un ressentiment qui s'apparente de plus en plus à de la haine. Ces passions de classe, en tout cas leur exacerbation, résultent d'une défaillance collective dont l'origine et le sens sont directement politiques. Les uns et les autres, les deux grandes parties de notre chose qui n'est plus guère commune, les uns et les autres ont perdu tout intérêt véritable pour les ressorts et les exigences de la démocratie représentative. La classe dirigeante, classe transnationale, ou en tout cas qui se sent telle, qui se veut telle, ou peut-être simplement qui se prétend telle, la classe dirigeante est pour l'essentiel satisfaite de la manière dont les règles sociales sont aujourd'hui conçues et administrées. Et donc, étant satisfaite, elle s'épargne tout effort un peu sérieux pour redonner vie à notre régime de gouvernement représentatif. Car cela réclamerait d'elle une certaine attention aux besoins, désirs et opinions du peuple. Ce peuple qu'elle juge, vous le savez bien, ignorant du monde, paresseux et xénophobe, voire raciste. Quant au peuple, ou à cette partie du peuple qui s'exprime en termes populistes, elle est aujourd'hui d'autant moins capable de faire valoir de manière pertinente et convaincante ses inquiétudes ou ses angoisses sur le sort commun que le souci du commun, de la chose commune, de notre chose commune, c'est-à-dire d'abord de notre nation, ce souci a été frappé d'interdit au motif qu'il n'y a de souci légitime que de l'homme en général, des hommes en général, de l'humanité en général. Ainsi, d'un côté, la classe dirigeante trouve parfaitement légitime que l'on ne tienne aucun compte des résultats de référendums organisés, pourtant, dans des conditions de légalité impeccables. Elle reprend volontiers, on l'a vu au moment du Brexit, les attendus de l'argumentaire censitaire, réservant en somme implicitement et parfois explicitement le droit d'opiner à ce que John Locke appelait déjà les industrious and rationals, les industrieux et les rationnels, qui l'opposaient déjà aux quarrelsome and contentious, c'est-à-dire, vous avez compris, aux querelleurs et à ceux qui cherchent noise. N'est-ce pas cette opposition qui continue d'organiser notre débat public? Et cette classe dirigeante tend à souhaiter de plus en plus explicitement que les décisions importantes pour la vie collective soient soustraites au vote démocratique. De son côté, le peuple populiste semble de moins en moins disposé, lui aussi, à tenir compte du résultat incontestable d'élections, elles aussi, parfaitement régulières. Dès le lendemain du vote, il manifeste son peu de confiance dans celui ou ceux que les électeurs viennent de choisir. On peut penser, on peut craindre, qu'il sacrifierait sans trop de regret certains aspects au moins du régime démocratique ou de l'état de droit si on lui proposait un échange de tenir compte effectivement et sérieusement de son besoin fondamental de préserver la forme de vie qui est la sienne. Ainsi, les deux grandes composantes de notre vie sociale et politique s'éloignent-elles l'une de l'autre, en même temps qu'elles s'éloignent l'une et l'autre de la démocratie représentative. La division des classes, l'échange des mépris, le rejet de l'élection, ces phénomènes ne sont pas nouveaux. Ils ont accompagné le développement de notre régime de démocratie représentative. Mais précisément, ils s'étaient estompés. Ils s'étaient affaiblis à mesure que notre régime achevait de se construire. Alors on peut craindre que nous ne soyons en train d'assister, sinon à l'épuisement, du moins à l'affaiblissement, à l'étiolement du régime politique sous lequel l'Europe, c'est-à-dire l'ensemble formé par les nations européennes, est parvenue au zénith de sa puissance et de son éclat. Le gouvernement représentatif, invention si nouvelle de l'Europe moderne, et bien sûr de son prolongement américain, le terme prolongement est d'ailleurs insuffisant. Il faudrait dire que le gouvernement représentatif a été à la fois inventé par l'Angleterre et la France, et aussi inventé par les États-Unis. En tout cas, le gouvernement représentatif, cette invention si structurante de l'histoire politique moderne, est une élaboration politique complexe que nous ne savons plus aujourd'hui ni admirer, ni défendre, ni même désirer. Avec ce régime, pour aller très vite, il s'agissait pour les citoyens de participer dans la liberté et l'égalité à la construction d'une chose commune qui est autorité légitime pour donner forme à la vie des citoyens. On voit combien nous nous sommes éloignés de cette perspective au cours du dernier demi-siècle. Désormais, les règles qui ordonnent notre vie collective ne sont légitimes à nos yeux, je viens d'y faire allusion, que si elles s'adressent aux hommes en général. Dès lors, les subdivisions ou circonscriptions de l'humanité, les familles, les nations, les églises ou d'autres associations visant une finalité commune, par exemple l'université, ces subdivisions ne concrétisent plus des finalités déterminantes de notre action. Motifs d'affection, de thèmes sentimentaux, dans le meilleur des cas, elles ont cessé d'être l'objet d'une loyauté exclusive et d'un engagement spirituel. Elles ne portent plus une autorité à laquelle nous serions tenus d'adhérer, pardon, et éventuellement d'obéir. Si rien n'est légitime à nos yeux que l'individu d'un côté, l'humanité réunie de l'autre, on voit bien que tout projet que nous pourrions former de redonner force et vie au ressort de la République représentative, tout projet de cette sorte, rencontre le veto combiné de ces deux légitimités, légitimité de l'individu, légitimité de l'humanité. De fait, nous avons abandonné au cours du dernier demi-siècle toutes les entreprises visant à produire du commun, à donner forme à la vie des citoyens ou des sociétaires, qu'il s'agisse du socialisme sous ses différentes formes ou de la République représentative sous sa forme nationale, la seule qui ait jamais existé. L'opinion a cru longtemps que l'abandon du socialisme par la gauche, celui de la nation par la droite, serait heureusement compensé par la seule entreprise commune, conforme à notre état social et moral et à l'état du monde, à savoir la construction européenne. Pourtant, en se donnant de plus en plus, pour contenu de plus en plus exclusif, les droits humains, et en refusant par principe de justice de défendre ou même de constater la forme de vie qui nous est propre, l'Europe, malheureusement, s'évidait spirituellement, en même temps qu'elle se construisait institutionnellement. Aujourd'hui, l'homme européen, c'est ainsi qu'il se définit, ne sait ni ne veut voir en lui-même ou autour de lui que ce personnage que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, à savoir l'homme en général. C'est la disposition la moins propice que l'on puisse imaginer pour fonder quelque association humaine que ce soit. Abjurant tout projet de donner forme à un commun qui soit nôtre, nous renonçons à puiser en nous-mêmes les principes ou les motifs de nos actions. Et donc, nous nous condamnons à chercher nos principes et nos motifs hors de nous. Hors de nous, c'est-à-dire dans ce que nous appelons le monde. Le monde tel qu'il s'impose à nous par son mouvement. Mouvement des marchandises, mouvement des capitaux, mouvement des services, mouvement des personnes. Puisque partir de nous-mêmes, ou penser et agir à partir de nous-mêmes, serait se fonder sur une injustice première, sur une préférence pour soi ou pour nous, contraire à nos yeux, à l'égalité et l'universalité des droits humains. Puisque une préférence européenne, que l'on envisage parfois, obéirait au même principe coupable que l'inexcusable préférence nationale, nous nous condamnons à recevoir notre mouvement, tout notre mouvement, du mouvement du monde. Assurément, je ne l'oublie pas, c'est une obligation pour tout corps commun, tout corps politique bien constitué, de faire face franchement aux contraintes et de répondre intelligemment aux sollicitations qui lui viennent de l'extérieur, qui lui viennent donc, si l'on veut, du monde. Encore faut-il que ce corps collectif ait en lui-même sa consistance, sa volonté et sa finalité. Encore faut-il, tout simplement, qu'il existe. S'adapter au mouvement du monde en renonçant à tout principe intérieur de mouvement nous condamne à nous dissoudre tôt ou tard dans le tourbillon des flux. Comment l'Europe, qui pendant plusieurs siècles a été le principe de mouvement du monde, on peut dire cela, comment l'Europe s'est-elle retournée comme un gant au point de consentir d'avance à tout ce que le reste de l'humanité voudra bien faire d'elle. Je ne suis certes pas capable de répondre à cette question, mais dans la seconde partie, je voudrais essayer d'éclairer brièvement le point où nous sommes parvenus en le rattachant aux décisions et aux actions fondatrices qui ont enclenché le mouvement politique moderne. L'histoire politique de l'Europe moderne a commencé, je ne vous apprends toujours rien, par l'État. Nous sommes sous l'œil de l'État. l'État tendanciellement national. Et elle est en train de s'achever, en tout cas, elle est en train de s'installer dans l'État tendanciellement ou explicitement post-national, celui qui est concrétisé par, non seulement par les institutions européennes, mais aussi par toutes les institutions et juridictions sub, trans et internationales. Entre ces deux bornes, s'est développé ce régime si singulier, qui fait notre souci, le gouvernement représentatif. Le gouvernement représentatif, dont la stabilité et la vigueur sont inséparables de la montée en puissance d'un phénomène social et politique qui n'a pas trouvé de nom, je crois, même si on l'enveloppe ordinairement dans la vaste et confortable couverture de la démocratie ou du mouvement démocratique, ce phénomène que j'appellerai le peuple politique. Tels sont donc, je crois, les trois ressorts de l'histoire politique de l'Europe moderne. L'État, le gouvernement représentatif, le peuple politique. Trois ressorts dont je vais essayer de considérer, toujours très schématiquement, la relation dynamique. L'État naquit, puis grandit, sous l'enveloppe protectrice, d'une réalité politique familière, ordinaire presque, que seul le mot anglais « ruler » désigne avec la généralité suffisante, et qui, dans le contexte européen qui nous intéresse, se concrétisa dans la figure du roi chrétien. C'est sous cette figure que l'État naquit parmi nous. On tâtonna durant des siècles, vous le savez, et bien mieux que moi, on tâtonna durant des siècles pour préciser en termes juridiques et politiques les caractères de ce pouvoir, sans parvenir à déterminer, par exemple, s'il existait ou non une constitution française digne du nom. Il y a un beau livre de Carcassonne sur ce problème. Ce qui allait devenir notre ancien régime fut d'abord le premier régime moderne et la matrice de tous ceux qui allaient suivre. Sous cette figure concrète du gouvernement monarchique, que l'on avait peine à définir avec précision, se développa une réalité plus nouvelle encore. Une réalité plus nouvelle encore que l'on pouvait, elle, définir en termes précis, car abstraits, qui appelait même une telle définition, et qui obligea finalement à repenser en termes abstraits tous les principes de notre organisation politique. À l'enseigne du roi chrétien, grandit donc l'État moderne, l'État souverain, c'est-à-dire une institution dont le pouvoir était non seulement plus grand, beaucoup plus grand, mais d'une autre nature que tous les autres pouvoirs, et sous la main duquel prenait forme progressivement un plan de l'égalité, ce plan de l'égalité sur la base duquel la société moderne, et même, osons le dire, l'esprit moderne, allait explorer toutes les possibilités, des plus prosaïques aux plus sublimes, d'une liberté finalement illimitée. À la Révolution française, pour reprendre une formule très expressive de Marx, cet État se débarrassa violemment de sa peau de serpent féodal. Il déploya sa force en même temps qu'il révéla sa nudité et sa vulnérabilité. Il avait enfin une définition admirablement claire. Il devait garantir les droits de l'homme et les droits du citoyen, qui les uns et les autres venaient d'être proclamés. La France avait enfin une constitution, mais cette finalité admise, qui allait délibérer des moyens? Qui allait les mettre en œuvre? Ce furent donc les représentants du peuple, ou pour le dire en termes plus généraux, les institutions du gouvernement représentatif. gouvernement que l'on élabora, que l'on apprit à faire fonctionner, non sans de grandes difficultés, de nombreux accidents, parfois des accidents très douloureux et dommageables, au cours du siècle suivant. Un coup d'œil jeté sur notre histoire politique fait mesurer combien fut variable le poids relatif des trois grands facteurs que j'ai distingués. Variable aussi le crédit général accordé au dispositif d'ensemble. Le pivot du dispositif reste à longtemps le gouvernement représentatif, puisque précisément, c'est lui qui gouverne. En tant que gouvernement, il vise en principe à bien gouverner. En tant que représentant, il vise en principe à bien représenter. C'est-à-dire à faire en sorte que le peuple, ou le plus grand nombre, ou la société, ou les électeurs, se reconnaissent en lui, se jugent bien représentés par lui. Le régime, donc, a une finalité d'action, gouverner, et une finalité de réflexion, au sens, pour ainsi dire, optique du terme, bien représenter. Le postulat, ou peut-être l'idéologie du régime moderne, est bien sûr que les deux aspects tendent normalement à coïncider, que bien gouverner et bien représenter tendent normalement à se confondre. En tout cas, le caractère ou le degré de représentativité du gouvernement est un thème spécifique et un souci constant du régime représentatif. Le travail de la représentation tend à produire un gouvernement de plus en plus représentatif, d'un peuple de plus en plus représentable. Un peuple représentable est un peuple émancipé des pouvoirs non représentatifs, c'est-à-dire des pouvoirs sociaux qui ignorent l'égalité des droits, parce que ce sont des pouvoirs subis et non pas des pouvoirs produits par les sociétaires. Un gouvernement représentatif est un gouvernement dans le miroir duquel, si j'ose dire, le peuple se regarde et se reconnaît. Parce que ce gouvernement est ou semble au service des droits et besoins du peuple, tels que le peuple les conçoit. Le gouvernement tend alors, et c'est cela une grande partie de notre histoire, tend alors de plus en plus à se confondre avec l'État gardien et facteur de l'égalité des sociétaires. Et à ce stade, gouverner est devenu un caractère récessif du gouvernement représentatif, dont l'action ne vise qu'à étendre et perfectionner de plus en plus les institutions de l'État-providence. Vous voyez que j'ai résumé deux siècles en quelques phrases. Quant au peuple politique, à ce stade, il est désormais entièrement émancipé des pouvoirs sociaux qui, par la même raison, n'ont plus de réalité sociale significative. En même temps, comme le gouvernement administrateur de l'État-providence ne peut plus renvoyer au peuple que l'image reflet de son désir, le peuple n'a plus rien à conquérir, mais tout à conserver. Son imagination a perdu le ressort qu'il élargissait aux dimensions de l'ensemble du corps politique et lui faisait concevoir le désir d'un rôle actif dans une société radicalement nouvelle, la révolution ou même tout grand changement social a disparu de son horizon, le peuple a cessé d'être un peuple politique. L'État-providence ne constitue pas la dernière forme dans le développement du régime moderne. Facteur de dépolitisation et d'inertie collective, il reste néanmoins ancré dans une visée associative ou du moins affectionnante. Tel n'est plus le cas de l'état des droits, qui se donne pour tâche d'étendre indéfiniment les droits individuels. Des droits qui concrétisent pour chacun le droit illimité de se définir et d'être reconnu comme il le désire, sans avoir à tenir compte d'aucun critère objectif ou commun. Loin d'étendre notre pouvoir d'association, comme on le dit parfois, les lois dites sociétales déclarent et valident le pouvoir illimité de l'individu de s'affranchir des ressorts les plus puissants et les plus profonds de l'association humaine, que sont la différence des sexes et celle des générations. Jusqu'à priver de sens les mots premiers du langage humain, comme ceux de père et de mère, et bien sûr ceux d'homme et de femme. De fait, si l'on se propose sérieusement de reconnaître au moi humain le droit et le pouvoir de se définir lui-même souverainement, de se donner à lui-même sa forme, il est nécessaire, il est urgent d'effacer ou de brouiller les repères qui définissent et ordonnent le monde humain et qui opposent ou qui opposaient une limite infranchissable à notre arbitraire. Comment dire que l'on élargit notre pouvoir d'association quand on a entrepris de ruiner la condition de possibilité de toute association, à savoir la nature humaine articulée selon ses différences. En tout cas, l'état des droits, notre état aujourd'hui, se déploie en se ramifiant à travers 1000 juridictions, commissions, comités, règles de bonne gouvernance, codes de bonne conduite, déontologie, traités et pactes, qui font pénétrer les droits humains, les bonnes règles et, ajoutons-le, les bonnes paroles dans le métabolisme intime de la vie européenne. Si l'on veut voir dans ce phénomène une extension du pouvoir judiciaire, il faut immédiatement préciser qu'il ne s'agit plus du pouvoir judiciaire tel qu'il était conçu dans la doctrine de la séparation ou de la distribution des pouvoirs. Selon cette doctrine, le pouvoir judiciaire, distinct des deux autres pouvoirs, est en même temps et nécessairement une partie du pouvoir exécutif, puisqu'il est chargé d'appliquer la loi et de punir les infractions à la loi. Il fait donc nécessairement partie du dispositif par lequel le corps politique se gouverne lui-même. Or, aujourd'hui, les institutions qui déclarent, défendent et de plus en plus étendent les droits agissent non plus comme un pouvoir judiciaire, parti d'un gouvernement politique, mais comme un pouvoir spirituel ou un pouvoir d'opinion, qui trouve dans l'idée des droits humains un principe qui se suffit à lui-même. Un principe qui se suffit à lui-même, qui produit par lui-même une lumière de légitimité assez forte pour nourrir des institutions indépendantes de toute autre légitimité et de tout autre pouvoir. Une lumière de légitimité assez forte en particulier pour être indépendante de toute légitimité politique et donc de toute association politique, corps politique ou cité. Ainsi, après avoir fourni une des fondations principales de cette admirable construction politique et morale que fut le dispositif proprement moderne associant l'État gardien des droits et le gouvernement représentatif, les droits humains, aujourd'hui, sont devenus un principe spirituel ou d'opinion qui retire chaque jour un peu plus de sa légitimité et donc de sa force vitale à l'association politique et qui prive de son ressort comme de son sens le gouvernement représentatif lui-même. Si l'état des droits ou l'état gardien et protecteur et producteur des droits, a pu être successivement principe de construction et principe de déconstruction du dispositif politique moderne, c'est qu'il comportait une ambivalence initiale, ou peut-être une faille originelle, qu'il nous reste à considérer. Ce sera ma troisième partie et dernière partie. L'État moderne introduit une modification décisive dans ce que j'appelle volontiers notre métabolisme politique, social et même moral, parce qu'il modifie le rapport entre l'action et la parole. Dans un ordre politique, quel qu'il soit, ancien, moderne, quel qu'il soit, il y a toujours un agent concret, roi, empereur, sénat, assemblée du peuple, dont la parole est habilitée à décider l'action qui concerne l'ensemble des citoyens ou des sujets. Il faut toujours qu'à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, action et parole soient jointes ou liées. Ce lien fait le beau risque de la vie politique. La parole donne la raison d'agir qui enclenche l'action, et celle-ci est irréversible. Vous savez, dans la période qui précéda l'élévation de l'État moderne, L'Europe retentissait de paroles sonores et exigeantes, impérieuses et pressantes, chacune réclamant pour elle-même l'autorité la plus grande. Paroles païennes ou chrétiennes, les unes invoquant les grands exemples grecs ou romains, les autres mettant en avant les grands exemples juifs ou les commandements et recommandations du Christ. Paroles opposées, bien sûr, qui déclaraient également obligatoires et urgentes des actions incompatibles entre elles, conduisant ainsi irrésistiblement, dans beaucoup de pays européens, à des guerres intestines particulièrement cruelles. Nos guerres plus que civiles, comme disait Montaigne. On fit l'expérience douloureuse et troublante, durant cette période, qu'il était impossible de rétablir la paix si l'on restait sur ce plan ou dans cet élément où les actions découlent directement des raisons que porte la parole publique. Il fallait donc rompre radicalement avec ce plan ou cet élément. Comment ? On ne le devinerait jamais si on ne l'avait pas fait. Comment eut-on l'idée d'une démarche aussi peu naturelle, aussi artificielle et forcée ? En tout cas, on construisit au-dessus de ce plan ou de cet élément où les hommes joignent directement l'action à la parole, on construisit un lieu qualitativement, radicalement, essentiellement séparé, c'est-à-dire un lieu abstrait. Le philosophe Thomas Hobbes nous donne la formule du grand œuvre dont il fut l'architecte suprêmement lucide. Je cite sa dédicace du Léviathan. « Je ne parle pas des hommes, dit Thomas Hobbes, mais dans l'abstrait du siège du pouvoir. Tout va découler de cette séparation de l'État, de cette séparation par abstraction. L'État n'est pas le nom abstrait. Ce n'est pas le nom abstrait de l'empereur, du roi, du rouleur, du titulaire du pouvoir en général. Il n'est pas un nom abstrait. Il est réellement, si l'on ose dire, une abstraction. La preuve qu'il est une abstraction, il n'a pas d'opinion. L'État moderne n'a pas d'opinion. Les sociétaires ont tous des opinions auxquelles ils tiennent. C'est pour ces opinions, ou au moins celles auxquelles ils tiennent le plus, qu'ils se font aussi souvent la guerre. L'État moderne n'a pas d'opinion, comme on le dira plus tard, il est neutre et agnostique. C'est une condition fort étrange, puisque tout ce qui est humain, individu ou institution, ne peut agir sans disposer d'une raison de son action, une raison susceptible d'être formulée par une parole. Il semble donc impossible pour une institution humaine de s'abstraire ainsi de la condition première de l'action humaine. De fait, cela se révéla fort difficile et presque impossible à l'État moderne lui-même, qui progressa lentement et laborieusement vers l'abstraction complète, non sans connaître de lourdes rechutes et des perplexités jamais surmontées. La question urgente étant alors celle de la juste interprétation de la proposition chrétienne, le premier État moderne fut l'État confessionnel, qui décide souverainement de donner une sanction d'État à telle version du christianisme, car on n'imaginait pas encore qu'il fût possible de vivre sans attache à une opinion religieuse qui fasse autorité. Et c'est au terme d'un processus s'étendant sur 2 ou 3 siècles que l'on aboutit à l'État neutre et agnostique que nous, Français, appelons l'État laïque. Neutralité d'ailleurs contestée par certains chrétiens, qui voyaient dans l'agnosticisme déclaré une tromperie cachant un athéisme d'État, mais aussi à leur manière par certains laïcs, qui voyaient dans la laïcité le fondement nullement neutre d'une société enfin rationnelle. Tant il est difficile de concevoir ou d'accepter une institution humaine qui soit réellement sans opinion. J'ajoute que dans certains contextes, la perspective de voir le sommet de l'ordre humain se vider de toute opinion sur le monde humain suscita un tel trouble, un tel vertige, que l'on entreprit au contraire, délibérément, de doter l'État d'un système d'opinion qui serait obligatoire pour l'ensemble de la société, qui réglerait les paroles comme les actions, qui rattacherait toute action sociale à une parole explicite de l'État. Ce fut le moment des totalitarismes, lorsque des partis d'un type nouveau, comme on disait alors, s'efforcèrent de transformer l'État neutre en son contraire exact, d'en faire un État partisan et idéologique, et qui se glorifiait de l'être. Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que État confessionnel, État neutre, État totalitaire, aussi différents bien sûr qu'ils soient l'un de l'autre, sont des variations sur un même thème, et que celui qui donne le « là » et par rapport auquel tout le reste est orienté et trouve son sens, c'est l'État neutre et agnostique. C'est l'État laïque, c'est lui qui porte à son terme le travail de l'abstraction, et c'est lui qui l'a finalement emporté en Europe. Comment l'État sans opinion a-t-il pu finir par régner sur un monde humain qui vit des opinions et par elles ? Comment articuler, engrener l'État abstrait et sans opinion à la société concrète animée par toutes les opinions et paroles imaginables ? Notre régime fut la réponse. L'État neutre appelle le gouvernement représentatif. Tandis que la neutralité de l'État garantit l'égalité des sociétaires en empêchant qu'aucune opinion n'acquiert ou ne garde un pouvoir de commandement dans la société, le gouvernement représentatif va chercher dans cette même société ses moyens de gouvernement, comme le disait Guizot, et en particulier les opinions dont il a besoin pour le guider. C'est cette articulation entre l'État neutre et le gouvernement représentatif qui donna la formule classique et victorieuse du dispositif politique moderne, dont le destin nous préoccupe. Sans prétendre enfermer dans une formule une histoire sociale et morale complexe, je résumerai le drame de notre régime de la façon suivante. L'État neutre l'a emporté sur le gouvernement représentatif, car il a de plus en plus neutralisé la société en soumettant les opinions et institutions de la société au régime d'abstraction qui le définit. En pratique, en soumettant toutes les composantes de celle-ci à la figure abstraite par excellence, celle dont il est le producteur et le produit, à savoir l'individu titulaire de droit. Et si l'État qui égalise a pu ainsi l'emporter sur le gouvernement qui gouverne, c'est qu'il a été prodigieusement renforcé par le gouvernement représentatif lui-même qui voulait inévitablement satisfaire les revendications du peuple politique. Il faut conclure maintenant. J'ai déjà évoqué le moment charnière où le peuple politique obtient du gouvernement qui le représente, qui se donne pour tâche principale de garantir les droits sociaux du peuple. Cette victoire du peuple politique annonce et prépare la dépolitisation du peuple, en même temps que le rétrécissement des enjeux de la représentation. À partir de ce moment, en effet, l'État, garant et producteur des droits, l'emporte décisivement sur le gouvernement représentatif. Il n'y a plus d'autre grand agendum, d'autre grande chose à faire que l'extension des droits. La justice sociale n'est plus obtenue par un compromis entre des forces sociales et leurs principes respectifs de justice, mais par l'addition de droits nouveaux, droits-liberté aussi bien que droits-créances, addition ou juxtaposition dont l'État est l'instrument indifférent. Je voudrais souligner, pour terminer, la radicalité du mouvement qui nous emporte, en même temps qu'il nous enferme dans l'impuissance collective. L'État neutre et agnostique, après avoir vaincu l'État confessionnel, puis l'État totalitaire, est resté seul maître du terrain. Pourtant, comme s'il n'avait pas été informé de sa victoire, il pourchasse aujourd'hui comme des résidus inadmissibles de l'âge religieux ou comme des symptômes de rechute totalitaire toute parole qui propose une action commune ou associante sans l'avoir au préalable soumise aux critères et à la critique de l'égalité des droits. Ainsi, la référence à la nation n'est-elle autorisée aujourd'hui que s'il est bien stipulé que la dite nation est ouverte à tous les hommes qui souhaiteraient en faire partie, ou que l'appartenance à cette nation est un droit humain que nul n'a le droit de limiter. Tout ce qui nous est encore commun est ainsi privé de défense et de nourriture et condamné à une érosion plus ou moins rapide. Notre État n'est pas violent, il n'est pas tyrannique, il ne détruit pas, il ne démolit pas. Les contenus concrets de notre vie sociale et morale, y compris religieuse, il s'abstient d'y toucher. Il se borne à les interdire de défense publique, puisqu'ils sont, au sens strict, indéfendables à ses yeux. En effet, toute affirmation ou défense d'un bien commun implique à ses yeux un rejet inadmissible de ceux qui n'ont pas de part à ce bien commun. Un bien commun ne peut donc être affirmé ou défendu que s'il est en même temps offert, et offert bien sûr gratuitement, comme un droit, à ceux qui, juste ici, n'ont pas eu part à ce bien commun. Ainsi sommes-nous parvenus au terme, est-ce simplement au terme provisoire, je n'en déciderai pas, de l'histoire de l'État. La séparation de l'État et de la société, l'abstraction de l'État, voilà qu'elle a pénétré la société elle-même, qu'elle la pénètre chaque jour davantage. C'est à l'intérieur de la société elle-même, c'est dans la vie de chaque sociétaire que doit désormais apparaître la distance entre l'homme concret et l'homme en général. Chacun de nous doit montrer, au moins laisser deviner, à l'égard des opinions qu'il semble encore nourrir, des biens communs qu'il semble encore chérir, la même indifférence supérieure que l'État souverain montrait à l'égard des opinions et affections sociales. Ce n'est donc pas seulement la légitimité du gouvernement représentatif, de la démocratie représentative qui est atteinte, ce n'est même pas seulement la légitimité politique en tant que telle, la légitimité du gouvernement du commun, c'est le ressort intime de l'homme agissant lui-même qui est distendu et peut-être cassé. Si ce diagnostic est assurément radical, je crains qu'il ne réponde à la radicalité du mouvement qui nous emporte en même temps qu'il nous paralyse, comme je le disais à l'instant. Je vous remercie.